France Culture.
Les nuits de France Culture.
La mort rôde. Extraite des heures dolentes de Gabriel Dupont et interprétée par Vladimir Jankélévitch lui-même. C'était cette musique qui accompagnait le générique d'ouverture des 9 épisodes de l'émission Le Livre de Chevet, dans lesquels le philosophe présentait et lisait de larges extraits du livre de Léonide Andreïev, Les 7 pendus. Dans le 3e épisode de cette série que nous allons entendre, la question était posée à Vladimir Jankélévitch : le mystère musical rejoint-il le mystère de la mort ? Écoutons sa réponse et l'émotion avec laquelle il abordait les chapitres 6 et 7 d'un roman qui racontait comment chacun de ses personnages, condamné à mort par pendaison, vivait les dernières heures qui le séparaient de son supplice. Le livre de chevet, Vladimir Jankélévitch présente « Les 7 pendus » de Léonide Andreïev, 3e des 9 épisodes diffusés le 31 mai 1967 sur France Culture.
L'ORTF vous présente « Le livre de chevet » de Vladimir Jankélévitch, qui vous lira des extraits des 7 pendus de Léonide Andreïev.
Il est significatif que, dès la première émission de cette série sur votre livre de chevet, Vladimir Jankélévitch, vous ayez eu le désir de vous exprimer d'abord par une interprétation musicale. Les références à des compositeurs sont d'ailleurs fréquentes dans votre ouvrage sur la mort. Et la mort rôde, non seulement dans l'œuvre de Gabriel Dupont que vous avez interprétée, mais aussi, selon vous, dans la chambre de Mélisande et dans les chants et danses de la mort de Moussorgski. Peut-on dire que le mystère musical rejoint le mystère de la mort?
Non, assurément, on ne peut pas dire que le mystère musical rejoigne celui de la mort. Ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Ce qui est vrai, c'est que quand on aborde des problèmes ineffables, ce qu'on ne peut pas dire, exprimer par les paroles, eh bien, la musique devient brusquement éloquente, comme la poésie, tout simplement. La musique est, comme la poésie, une manière de se taire. Je dirais même que c'est une forme du silence, un silence enchanté. Et c'est dans ce silence, du reste, que l'homme écoute la voix ineffable. Peut-être qu'il en est de la mort comme précisément de l'amour. Et je vois assez bien le pianiste, que malheureusement je ne suis pas, ne sachant que répondre à une question, et pour toute réponse, s'asseyant au piano. C'est sa meilleure réponse. On me raconte que Sviatoslav Richter, après la mort de Pasternak, qui était un grand ami à lui, est allé dans sa datcha, et puis s'est assis au piano, et il a joué toute la journée. Pour exprimer sa douleur, c'était une façon pour lui d'exprimer.
Je rappelle que Vladimir Jankélévitch nous révèle le récit des 7 pendus de Léonide Andreïev. Dans la précédente émission, Andreïev a donné un portrait de Serge Golovin, un des condamnés. Ce soir, il nous fait suivre les réactions de la famille du condamné.
Soudain, il demanda : « Et ma sœur ? Elle va bien ? » ?»« Ninotchka ne sait rien, » répondit vivement la mère. Mais le colonel l'interrompit avec sévérité. « À quoi bon mentir ? Elle a lu les journaux ? » Que Serge sache que tous les siens ont pensé, il ne put continuer et s'arrêta. Soudain, le visage de la mère se tira. Les traits se brouillèrent et devinrent sauvages. les yeux décolorés s'écarquillèrent follement. La respiration devint de plus en plus haletante et forte. « Petite mère !» Le colonel fit un pas, tremblant tout entier, sans savoir combien il était affreux dans sa blancheur cadavérique, dans sa fermeté désespérée et voulue. Il dit à sa femme « Tais-toi, ne le torture pas, ne le torture pas, tu le tueras. Il doit mourir. » Puis il fit un pas en arrière, remit la main dans la fente de sa redingote, avec une expression de calme forcé. Il demanda à haute voix les lèvres blêmes. « Quand ?»« Demain matin, » répondit Serge. La mère regardait à terre en se mordant les lèvres comme si elle n'entendait rien. Et il sembla qu'elle laissait tomber ses paroles simples et étrangères tout en continuant à se mordre les lèvres. « Ninotchka m'a dit de t'embrasser, mon petit Serge. »« Embrasse-le de ma part, » répondit le condamné. « Bien, les Khvastov te font saluer. »« Les Khvastov, qui est-ce ? » ?»« Ah oui !» Le colonel l'interrompit. « Allons, il faut partir. Lève-toi, mère, il le faut. » Les deux hommes soulevèrent la femme qui défaillait. « Dis-lui adieu, » ordonna le colonel. « Bénis-le. » Elle fit tout ce qu'on lui dit. Mais tout en donnant à son fils un court baiser et en faisant sur lui le signe de croix, elle hochait la tête et répondit distraitement. « Non, ce n'est pas cela, non, ce n'est pas cela. »« Adieu, Serge, » dit le père. Ils se serrèrent la main et échangèrent un baiser bref mais fort. « Tu... » commença Serge. « Eh bien, » demanda le père d'une voix saccadée. « Non, pas comme cela, non, non. Comment dirais-je ? » répétait la mère en hochant la tête. Elle s'était de nouveau assise et chancelait. Son visage prit une expression lamentable et il grimaça comme un enfant. Des larmes remplirent ses yeux. À travers leurs facettes étincelantes, il vit tout près de lui le visage pâle de son père qui pleurait aussi. « Père, tu es un homme fort. »« Que dis-tu ? Que dis-tu ? » s'écria le colonel, effaré. Soudain, comme s'il se fût cassé, il tomba la tête sur l'épaule de son fils. Et tous deux, ils couvraient de baisers ardents, l'un des cheveux légers, l'autre une capote de prisonnier. « Et moi ? » demanda brusquement une voix rauque. Ils regardèrent. La mère était debout et la tête rejetée en arrière, elle les considérait avec colère. « Qu'as-tu, mère ? » demanda le colonel. « Et moi ? » répétait-elle en hochant la tête avec une énergie insensée. « Vous vous embrassez. » Mère et Serge se jeta dans ses bras. Les derniers mots du colonel furent « Je te bénis pour la mort, Serge. Meurs avec courage, comme un officier. » Et ils partirent. De retour dans sa cellule, Serge se coucha sur son lit de camp, le visage tourné vers le mur pour que les soldats ne le visent pas. Et il pleura longtemps. Et je voudrais aborder le chapitre 6 des sept pendus, du récit des sept pendus, intitulé « Les heures s'enfuient ». Et comme le titre l'indique lui-même, il s'agit du problème philosophique dont j'avais parlé dans, à propos de la première lecture. Je veux dire l'usure du temps, le sablier qui se vide, la clepsydre, et qui peu à peu se vide, le temps grignoté, la vie de l'homme grignotée par l'insecte du temps, en quelque sorte, la vie qui s'use, cette vie devenue monstrueuse, chez le condamné à mort. Et Andreïev nous parle de la fuite des heures dans la prison silencieuse, marquée seulement par la cloche de la prison. Dans la forteresse où les terroristes étaient enfermés, il y avait un clocher avec une antique horloge. Chaque heure, chaque demi-heure, chaque quart d'heure, l'air retentissait d'un son infiniment triste, pareil aux cris lointains et plaintifs des oiseaux de passage. Le jour, cette musique bizarre et désolée se perdait dans le bruit de la ville, de la grande rue animée qui passait devant la forteresse. Les tramways grondaient, les sabots des chevaux résonnaient, les automobiles trépidantes jetaient au loin leurs appels rauques. Le carnaval étant proche, les paysans des environs étaient venus en ville pour gagner quelque argent comme cochers de fiacre. Les grelots des chevaux petits russiens tintaient bruyamment. Les conversations étaient gaies, sentaient d'ivresse, de vraies conversations de fête. Le temps était à l'unisson, le printemps avait amené le dégel, et des mares troubles mouillaient la chaussée. Les arbres des squares avaient noirci. Par larges bouffées humides, un vent tiède venait de la mer et semblait partir en un vol joyeux vers l'infini. La nuit, la rue se taisait, sous la clarté des grands soleils électriques. L'immense forteresse aux murailles lisses plongeait dans l'obscurité, dans le silence. Une barrière de calme et d'ombre la séparait de la ville continuellement vivante. Alors on entendait sonner les heures. Étrangère à la terre, une mélodie singulière naissait et mourait, lentement, tristement. Comme de grosses gouttes de verre transparentes, les heures et les minutes tombaient d'une hauteur incommensurable dans une vasque métallique qui vibrait doucement. Parfois, c'étaient des oiseaux qui passaient. Dans les cellules, cette sonnerie seule arrivait, jour et nuit. Elle pénétrait au travers des épaisses murailles de pierre. Elle seule rompait le silence.
Parfois, on l'oubliait, on ne l'entendait pas. Parfois, on l'attendait avec désespoir. On ne vivait que par le son et pour le son, car on avait appris à se défier du silence. La prison était réservée aux criminels de marque. Son règlement spécial, rigoureux, était ferme et rude comme l'angle des murailles. Si des choses cruelles peuvent avoir leur noblesse, il y avait de la noblesse dans ce silence solennel et profond où s'engloutit chaque souffle, chaque frôlement. Dans ce silence que traversait le tintement désolé des minutes qui s'enfuient, trois hommes et deux femmes, séparés du monde, attendaient la venue de la nuit, de l'aurore et du supplice, et chacun s'y préparait à sa manière. Pendant toute sa vie, Tania Kowalczuk n'avait pensé qu'aux autres. C'était encore pour les camarades qu'elle souffrait et se torturait. Elle ne se représentait la mort que parce que celle-ci menaçait Serge Golovin, Moussia et les autres. Elle avait oublié qu'elle aussi serait exécutée. Comme pour se récompenser de la fermeté factice qu'elle avait montrée devant les juges, elle pleurait pendant des heures entières. Ainsi font les vieilles femmes qui ont beaucoup souffert. En pensant que Serge manquait peut-être de tabac, que Werner pouvait être privé de thé, ce thé qu'il affectionnait, et ceci au moment où il allait mourir, elle souffrait autant qu'à l'idée du supplice. Le supplice, c'était quelque chose d'inévitable, d'accessoire même, qui ne valait pas la peine d'être pris en considération. Mais qu'un homme emprisonné manquât de tabac ou de thé à la veille même de son exécution, c'était pour elle une idée insupportable. Elle éprouvait pour Moussia une pitié particulière. Depuis longtemps, il lui semblait, à tort, que Moussia aimait Werner. Elle faisait pour eux des rêves splendides et lumineux. Avant son arrestation, Moussia portait un anneau d'argent sur lequel était gravé un crâne entouré d'une couronne d'épines. Souvent, Tania Kowalczuk avait regardé cette bague avec angoisse, comme un symbole de renoncement, et elle avait prié Moussia de la lui donner. « Non, Tania, je ne te la donnerai pas. Tu en auras bientôt une autre doigt. » Ses camarades pensaient toujours qu'elle allait prochainement se marier, ce qui l'offensait beaucoup. Elle ne voulait pas de mari. Et en se rappelant ses conversations avec Moussia, en songeant que Moussia était en effet sacrifié, Tania, pleine d'une pitié maternelle, sentait les larmes l'étouffer. Chaque fois que l'horloge sonnait, elle levait son visage couvert de pleurs et tendait l'oreille. Comment accueillait-on, dans les autres cellules, cet appel plaintif et opiniâtre de la mort ? Voici maintenant quelques extraits du chapitre 7, intitulé « Il n'y a pas de mort ». Il n'y a pas de mort. Et Moussia était heureuse. Les bras croisés derrière le dos, revêtue d'une robe de prisonnière, trop grande pour elle, et qui la faisait ressembler à un adolescent affublé d'un costume d'emprunt, elle allait et venait dans sa cellule, à pas égaux, sans se lasser. Elle avait retroussé les manches trop longues de sa robe, et ses bras minces, amaigris, ses bras d'enfant, sortaient des larges entournures comme des tiges de fleurs placées dans une cruche malpropre et vulgaire. La rudesse de l'étoffe irritait la peau du cou blanc et gracile. Parfois, d'un mouvement des deux mains, elle dégageait sa gorge et tâtait avec précaution l'endroit où la peau lui cuisait. Moussia marchait à grands pas, et elle se justifiait en rougissant de ce qu'on lui avait assigné à elle, si jeune, si humble, qui avait fait si peu de choses, la mort la plus belle, réservée jusqu'alors aux martyrs. Il lui semblait qu'en mourant à la potence, elle affichait une prétention de mauvais goût. À la dernière entrevue, elle avait prié son avocat de lui procurer du poison. Mais aussitôt, elle y avait renoncé. N'allait-on pas penser qu'elle agissait ainsi par peur ou par ostentation ? Au lieu de mourir modestement, inaperçue, ne causerait-elle pas encore du scandale ? Aussi avait-elle ajouté vivement, et puis non, c'est inutile. Maintenant, son unique désir est d'expliquer, de prouver qu'elle n'est pas une héroïne, qu'il n'est pas effroyable de mourir, qu'il ne faut ni la plaindre, ni se tourmenter pour elle. Comme si on l'avait vraiment accusée, Moussia cherche des excuses, des prétextes de nature à exalter son sacrifice et à lui donner une valeur réelle. En effet, se dit-elle, je suis jeune, j'aurais pu vivre longtemps encore. De même que la lueur d'une bougie s'efface dans le rayonnement du soleil levant, la jeunesse et la vie lui paraissent ternes et sombres devant l'auréole magnifique et lumineuse qui va couronner son humble personne. Est-ce possible, se demande Moussia, toute confuse, est-il possible que je mérite qu'on me pleure ? Et une joie indicible l'envahit. Il n'y a plus de doute. Élue, elle est élue entre toutes. Elle a le droit de figurer parmi les héros qui, de tout pays, s'en vont vers le ciel au travers des flammes et des exécutions. Quelle paix sereine, quel bonheur infini. Immatérielle, elle croit planer dans une lumière divine. Thank you.
C'était Le Livre de Chevet de Vladimir Jankélévitch, une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Aujourd'hui, Vladimir Jankélévitch vous a lu des extraits du livre de Léonid Andreïev, Les Sept Pendus, et vous a interprété au piano La Mort Rôde de Gabriel Dupont et un extrait de Goyescas de Granados. Assistante de réalisation, Gilberte Samba.
Vous venez d'entendre le troisième des 9 épisodes du Livre de chevet de Vladimir Jankélévitch. Première diffusion le 31 mai 1967 sur France Culture. À suivre.